chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans votre émission quotidienne de débat et d'échange sur l'actualité ou la société du Studio Kalangou. Vous pouvez suivre les programmes du Studio Kalangou sur les ondes de nos 47 radios et 6 télévisions partenaires. Alors, notre thème aujourd'hui portera sur comment se porte le football nigérien. Dans notre débat, nous allons déterminer la situation et l'évolution du football nigérien. Qu'est-ce qui ne va pas dans le football nigérien ? Que peut faire l'État pour que les résultats du football soient constants, surtout dans les compétitions internationales? Qu'est-ce qui marche également dans le football? Des exemples de performance. Pour les échanges, nous sommes en compagnie de M. Silimane Mohamed, secrétaire général de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Bonsoir.
Bonsoir.
En compagnie de M. Hassoumi Abdoulaye, journaliste sportif à la télévision nationale promotion du site de sport Prolongation. Bonsoir.
Bonsoir.
En compagnie aussi de Madame Mariama Gouba, membre de l'Association nationale des supporters. Bonsoir, Madame.
Bonsoir.
Et enfin, en compagnie de Monsieur Seydou Ousseini, grand passionné du football nigérien.
Bonsoir, Madame. Bonsoir.
À la présentation, je suis Rafika Taher. Juste un petit rappel sur l'histoire du football. À l'instar de plusieurs pays du continent africain, la pratique du football moderne remonte à la période coloniale. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que les fonctionnaires de l'Afrique occidentale française ont commencé à jouer au football. Nous allons commencer par vous, Monsieur Silimane. Dites-nous quelle est la situation et l'évolution du football aujourd'hui au Niger.
Oui, je vous remercie déjà pour l'invitation et je remercie également le studio Kalangou pour l'intérêt porté vraiment à la chose footballistique. Vous savez, votre question est très, très, très vaste. Vous avez marqué déjà le début du football nigérien, effectivement, depuis la période coloniale, avec les fonctionnaires venus d'autres horizons, des pays voisins, voilà, de l'Afrique occidentale française, etc. Mm-hmm. Parce qu'il faut le dire, le sport, le football nigérien est un sport qui est importé, mais avec le temps, a connu quand même une certaine évolution. Après les indépendances, évidemment, il fallait un peu, j'allais dire, nationaliser, entre guillemets, la pratique du football. Il y a eu des institutions qui ont été créées, comme le Haut Commissariat à la Jeunesse, comme la Fédération nigérienne de football, qui s'est d'abord affiliée à la CAF, ensuite à la FIFA, et il y a eu une certaine prise en main de la chose footballistique par les Nigériens eux-mêmes. Et on a connu d'abord l'époque des secteurs, depuis l'époque du parti unique, du RDA, les différents secteurs, et jusqu'en 1974, avec l'arrivée du CMS au pouvoir, le président Kouché, où il y a eu un changement au niveau des dénominations. Les clubs ont muté de secteur, ils ont pris des noms comme l'Olympique, le Sahel, le Zumunta, le Liberté, etc. Et à l'intérieur du pays, vous avez l'Espoir de Zender, le Jangoro de Maradi, l'Ader de Tawa, etc., le Soufakoulé de Dosso, etc., etc. Donc, il y a eu quand même une certaine évolution.
Quelles sont ces évolutions depuis justement la venue du football au Niger?
Bon, l'évolution, déjà, au niveau de la pratique, avec les nationaux qui se sont accaparés de la chose. Il y a eu la création aussi de l'équipe nationale. Entre-temps, elle a changé également de nom. Elle est devenue le MENA national. Ainsi de suite, il y a eu nos différentes inscriptions de nos clubs au niveau des compétitions africaines, des clubs. La Coupe des champions à l'époque, la Coupe des vainqueurs de coupe, qui sont devenus la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération. L'équipe nationale aussi a commencé à jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Coupe du Monde, etc. etc. Et nos joueurs, il y a eu une certaine organisation sur le plan local, avec l'organisation donc de compétitions nationales telles que le championnat national, telles que la Coupe nationale. À l'époque, il y avait également la Coupe de la République, dont la finale se jouait le 18 décembre. Il y a eu en tout cas un certain nombre de compétitions et ça a servi à la vulgarisation quand même du football sur toute l'étendue du territoire national. Et on a commencé à avoir les premiers résultats. On se rappelle tous de l'épopée du MENA national en 1980-81, où on était à un doigt de la Coupe du Monde, 82 en Espagne. On avait atteint les demi-finales africaines. On avait été éliminé juste par l'Algérie, avec tout le monde se rappelle de cette retentissante victoire du MENA national sur les Fenech d'Algérie à l'époque, ce qui c'était leur seule défaite dans la compétition. Et ils sont partis en finale, ils ont battu le Nigeria. D'ailleurs, en aller-retour.
Revenir sur les performances.
Exactement.
Un peu plus
voilà, tard. Donc après, voilà.
Avec l'avènement du football féminin, en 2000, que peut-on dire aussi de l'équipe nigérienne féminine? Quelle place elle occupe aujourd'hui?
Bon, il faut le reconnaître, le football féminin est encore embryonnaire actuellement. On est actuellement au stade de sa vulgarisation véritablement. Il faut quand même le reconnaître, il y a eu toujours du football féminin au Niger. Je rappelle certaines aînées, hein, comme Fili, qui était maire à Dosso d'ailleurs, et qui avait vraiment tracé la voie. D'autres personnes, comme Mme Amina Moussa, qui est actuellement présidente de la commission de football féminin au Niger, qu'on appelait Platini à l'époque, c'est vous dire comment elle était talentueuse. Il y avait quand même des femmes qui étaient des pionnières. Mais vous savez, je vous apprends rien, le contexte nigérien est extrêmement compliqué, enfin difficile, sur le plan social, sur le plan religieux. Il y a beaucoup de pesanteurs qui empêchent cette éclosion du football féminin. Mais quand même, il existe, je pense que depuis quelques années, il y a un effort qui est fait. Vous savez que c'est, j'allais dire, une obligation de la FIFA, parce que la FIFA a placé le football sur le terrain des droits de l'homme. On s'est dit tout simplement que les jeunes filles, comme les garçons, ont le droit également d'assouvir leurs rêves. Elles ont également le droit de jouer, si elles ont envie de jouer. Et la fédération a le devoir de créer le cadre pour qu'elles s'épanouissent, pour qu'elles assouvissent leur passion comme leurs frères, comme leurs jeunes frères, comme les autres, comme les garçons. Je crois que la place est de plus en plus prépondérante. Parce que je pense que nous pouvons être fiers de dire que pour la première fois de l'histoire du Niger, nous avons pu inscrire nos équipes nationales dans les compétitions internationales de femmes, telles que la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Nous avons joué contre, déjà, il y a un an, on s'était inscrit. Cette année, on a récidivé, on a encore inscrit nos dames au niveau de la CAN féminine, Maroc 2022. On a été éliminé par la Côte d'Ivoire. Les plus jeunes, les U17, vont jouer très bientôt également contre Sao Tomé et Principe. Les U20, les moins de 20 ans, elles ont joué contre le Bénin au mois d'août passé. Et ce sont des premières au Niger. C'est des choses qu'on n'avait jamais connues dans notre pays. En plus de 50 ans d'indépendance, nos équipes nationales féminines ne s'étaient jamais inscrites dans les compétitions de ce genre. Le souci pour nous, on ne s'inscrit pas pour se qualifier à la CAN ou bien pour aller à la Coupe du Monde, mais tout simplement pour permettre aux filles de s'épanouir et de jouer au football comme leurs collègues masculins. Parce que c'est un droit inaliénable. Donc, nous sommes à nos débuts et nous pensons qu'avec le temps, il y aura une plus grande vulgarisation parce que parallèlement aussi, nous avons créé également, véritablement cette fois-ci, un vrai championnat national de football féminin qui regroupe 15 clubs de Niamey, d'Arlit, de Zender, de Maradi, de Tawa, etc., dont la phase finale a eu lieu à Maradi en août passé. Donc, je crois que de plus en plus, nous sommes en train de nous organiser. Nous tirons les leçons, les enseignements des problèmes, là il y a des couacs, pour mieux organiser les choses dans l'avenir.
D'accord, nous reviendrons vers vous, M. Silliman. M. Hashemi, quels sont les défis que les gazelles doivent relever?
Bon, je crois que d'abord, je vous remercie de l'invitation. Et je dois dire d'abord que l'évolution du football nigérien a été typiquement nigérien depuis le début des indépendances à aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est un exploit, même que le Niger possède deux équipes nationales féminines, c'est un exploit vu le contexte nigérien. Et parce que, vous savez, avant même les hommes, on les interdisait de jouer au football. Les parents les interdisaient de jouer au football. Il y avait beaucoup de footballeurs très talentueux, malheureusement, à cause des études, à cause de l'avenir que voulaient leurs parents, ils les ont interdit de jouer au football. Alors, les défis, elles sont énormes. D'abord, les responsables en charge du football féminin doivent vulgariser la discipline par la sensibilisation. Jusqu'à présent, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui n'aiment pas à ce que leur enfant joue au football. Dès qu'on voit une femme en train de jouer au football, il y a déjà des gens qui commencent à monter. Donc, le défi, c'est d'abord la vulgarisation par la sensibilisation. Et tant qu'il y a beaucoup de footballeuses, tant que les femmes jouent beaucoup au football, c'est sûr qu'on aura une bonne équipe nationale de football.
D'accord. Monsieur Seydou, pour revenir lors de la Coupe du Monde des moins de 17 en 2017, l'équipe de football du Niger a été performante en gagnant son premier match de la phase finale de la catégorie en battant la Corée du Nord 1-0. Que sont devenus ces jeunes qui représentaient quand même à l'époque l'avenir du football nigérien?
Je vous remercie infiniment de m'avoir donné l'occasion de s'exprimer dans votre studio. Bon, il y a d'autres actuellement qui évoluent dans les autres clubs. D'autres aussi ne jouent plus parce qu'ils ont eu une déception. C'est-à-dire que maintenant, on peut me faire une proposition dans un autre club. Après ça, les jeunes n'arrivent pas à honorer leur engagement. dans les différents clans.
D'accord, merci M. Seydou. M. Souleymane, quelle est votre intervention sur la question?
Oui, par rapport à ça, vous savez, effectivement, la CAN au Gabon en 2017 a permis à notre équipe nationale des cadets de se qualifier pour la Coupe du Monde. Nous avions été en demi-finale et cela nous donnait le droit de participer à la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Inde. Et les cadets ont reçu l'espoir de se qualifier pour le 8e de finale. Ils étaient dans une poule très difficile. Vous avez parlé de la victoire contre la Corée. Après, il y a eu les deux défaites contre l'Espagne et contre le Brésil, qui ne sont pas quand même les premiers venus. En dépit de tout ça, quand même, notre victoire nous a permis de nous qualifier pour le 8e. Et on a perdu contre le Ghana. Je crois que beaucoup de ces jeunes sont encore là. Vous savez, le football, c'est comme à l'école. Quand vous voyez, par exemple, une classe de CI actuellement, vous prenez une cinquantaine, soixantaine d'élèves en CI. Combien arrivent au CM2? Parmi ceux qui arrivent au CM2, même parmi eux, combien arrivent en troisième, en terminale, etc., etc. C'est pour vous dire qu'il y a un circuit qui est suivi, qui est souvent difficile, et il y a forcément des déperditions en cours de route. Les plus valeureux, les plus méritants, ils continuent. Et il y en a aussi, pour une raison ou pour une autre, il y a des défaillances et ils disparaissent de la circulation. Mais je crois que dans l'équipe de la CAN U17, et de la Coupe du Monde U17, beaucoup actuellement sont là. Et d'ailleurs, c'est même sur eux que le sélectionneur national actuellement est en train de se baser pour vouloir reconstruire le groupe. Donc, je crois que c'est déjà pas mal. Il y en a qui ont réussi à intégrer l'équipe nationale, mais il y en a aussi qui jouent dans l'équipe nationale à prime. Donc, ces jeunes sont là. Donc, et c'est même sur eux, c'est sur eux le noyau actuel sur lequel le sélectionneur veut se baser pour reconstruire l'équipe nationale.
D'accord. Maria Magouba, avez-vous quelque chose à rajouter?
Oui, bon. Merci. C'est que je dois lui rappeler, même hier, il y a un de ses enfants qui joue à la Nigelec, Ousmane Mamman, le numéro 3. Donc, ces enfants-là, ils sont toujours là. C'est que eux-mêmes, ils ne respectent pas leur travail et ils ne savent pas ce qu'ils veulent, en fait. Quand tu vas regarder beaucoup d'entre eux, c'est pas, ils ne savent rien faire que jouer. Ils ont eu la chance d'être à l'équipe nationale. On les a inscrits même à l'école, au Bédir. Tous, ceux qui ne veulent pas, ils sont restés. Parce qu'ils n'ont pas la volonté de faire. Même si tu ne connais pas, si tu as la volonté de faire, tu peux apprendre à travers tes amis. Ce n'est pas seulement être élève qui veut dire que je veux apprendre. Il y a d'autres facteurs aussi que tu peux apprendre.
D'accord. Au classement en novembre 2021 de la Fédération internationale de football, association FIFA, l'équipe du Niger occupe la 113e place. Le Niger a donc progressé de 8 places par rapport au classement précédent où il occupait la 121e. Donc, Monsieur Hassoumi, quelles sont vos impressions par rapport à cette progression?
Bon, c'est une progression qui résulte des deux derniers matchs de l'équipe nationale contre le Burkina Faso, où le MENA a réalisé un grand match à Marrakech et face aux étalons du Burkina Faso, et surtout la victoire contre les requins de la mer Rouge du Djibouti. Et c'est ça qui a permis au Niger d'engranger des points et pour le classement FIFA. Et l'intérêt, c'est que ça permet au Niger de continuer à jouer en poule, de jouer des préliminaires pour les prochains échéances, notamment les éliminatoires de la CAN 2023. Et moi, je dis que c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas encore suffisant, puisque si vous voyez le classement FIFA, il y a au moins 208 nations et associations affiliées à l'instance fêtière du football mondial. Donc, la position du Niger, on peut mieux faire, puisqu'il y a quand même... et beaucoup il y a de la matière. Et pour juste, permettez-moi de revenir sur ces enfants qu'on vient de parler. Honnêtement, c'est partout dans le monde, c'est la même chose. Les Maliens qui avaient remporté la CAN en 2017, ils ne sont pas tous en équipe nationale aujourd'hui. Les Anglais qui avaient remporté la Coupe du Monde en 2017, aujourd'hui, vous allez compter, peut-être vous avez Foden, Phil Foden, mais après, est-ce qu'il y a un autre? Donc partout, c'est comme ça. Au Niger même, il y a l'espoir, puisqu'il y a quand même 7-8 qui intègrent ce groupe. On peut parler également des joueurs qui sont sortis, comme après la Coupe, la CAN 2019 qui s'est déroulée ici, et monnaie leur talent ailleurs. Mais le classement FIFA, pour moi, je serais content quand le Niger va revenir peut-être au niveau du chapeau 2, notamment 50e. Et on a la matière pour aller là-bas. Et je pense qu'il faut mettre, et l'État doit mettre la main dans la pâte. Et nous-mêmes, les acteurs du football, on devrait en tout cas mettre de notre pour faire évoluer les choses.
D'accord. Mariam Mogouba, vos impressions par rapport à cette progression?
Oui, bon, c'est une bonne chose et on peut mieux faire comme il l'a dit, mais là n'est pas le problème.
On vous écoute en tant que membre de l'association des supporters.
Il faut revenir, comme l'a dit, à la base, reconstruire, aller de l'avant, aider nos enfants, ces joueurs-là, nous-mêmes, avant de faire appel à des gens qui ne sont pas sur place. Il faut les aider, les sensibiliser, parce que c'est un métier qu'ils ont choisi.
Oui, mais quand vous dites reconstruire, à quoi vous pensez?
Revenir à la base. Inciter ces jeunes à aimer ce qu'ils font. Le football-là qu'ils sont en train de jouer, le mettre en valeur. Parce que c'est des talentueux. Eux, ils ne savent pas s'ils le jouent bien. Mais c'est à nous de leur dire ce qu'ils font là, c'est bien. Donc, de continuer dans ce sens. Au lieu de régresser, ils doivent avancer. Parce que si la personne commence à jouer, on commence à l'applaudir, il va dire qu'il est bon. Il va rester encore dormir, coucher, dire que demain même on va m'appeler à l'équipe nationale parce que j'ai fait un bon match. Si tu
donc,
ne travailles pas là.
Vous sous-entendez qu'il ne faudra pas les applaudir ou bien...
Il faut les applaudir, mais pas comme nous le faisons. Nous le faisons comme s'ils sont au top déjà, alors qu'ils ne sont pas arrivés à ce point d'abord. C'est doucement. Tout celui qui va lentement va sûrement applaudir. Bon, c'est bon petit. Il faut mieux faire encore que de lui dire « tu as bien fait ». Donc, il va faire le dos que moi, je suis déjà un pro.
Oui, allez-y,
oui, madame. C'est-à-dire que c'est une progression très difficile sans suite. Pourquoi? Il faut qu'on se dise la vérité. Ici, au Niger, les gens faisaient des références aux autres clubs de l'extérieur, comme nos voisins. Ici, pour que le football nigérien marche, il faut revenir à la base. À la base, c'est-à-dire commencer dans les écoles, de reprendre encore le championnat scolaire que faisait avant. Pour que le championnat scolaire, le championnat interquartier, le championnat communal. Parce que, madame, en réalité, dans ce pays, maintenant, le football nigérien ne marche pas. Mais il faut que les gens défendent des causes qui sont indéfendables. La réalité est là et que nous tous, nous voyons la vérité. Sauf si nous la cachons. Parce que maintenant, pour que le football marche, je le redis encore, certes, il y a la volonté de la fédération, mais il faut aussi la politique de l'État.
Nous allons revenir sur les difficultés que rencontre le football. Là, nous voulons que vous nous dites un peu ce que vous pensez de la progression.
La progression, ça va au moment où le Niger est parti en camp deux fois successivement. C'est-à-dire que c'est un exploit pour nous. Et que
les 8 places de gagner.
On n'a jamais connu, certes. Les 8 places aussi, ça a été difficile. Parce que si vous avez regardé, pour moi, c'était même du hasard. Regardez le match contre le Burkina Faso. Un club qui n'a pas de système de jeu. Regardez la suite. Même contre le Burkina Faso, on a encaissé le but comment? Il faut qu'on se dise la vérité. Hein.
Je voudrais revenir sur une chose dont les gens parlent toujours, mais sans connaître la véritable profondeur. Revenir à la base. Depuis que moi je connais le football, depuis que je suis né, il y a toujours la base au Niger. Mais cette base, elle est mal exploitée. C'est pour cela que je vous dis tout à l'heure que... Écoute-moi, je vais finir.
Je ne suis pas d'accord.
C'est pour cela que j'ai dit la progression du football nigérien a été typiquement nigérienne. Aujourd'hui, le football de la base existait depuis longtemps. Il y avait les petites catégories des clubs, les cadets et juniors, les appels et même espoirs. Il y avait tous les clubs avaient ces catégories. Nous-mêmes, nous avons joué. Lui-même, il a joué dans ces petites catégories. Maintenant, c'est pas le seul. L'Olympique en avait, le Zumunta en avait, le Liberté en avait. Laissez-moi finir.
Je suis désolé. Je pars sous le contrôle, madame, s'il vous plaît. Je pars sous le contrôle du monsieur.
Mais laissez-moi finir. Est-ce que quand vous parlez, je vous ai coupé?
Laissez-le finir, s'il vous plaît.
Aujourd'hui, je ne vous ai pas coupé.
Nous allons revenir vers vous. Vous aurez tous le temps.
Attends, je
ne
vous ai pas coupé.
Oui.
Moi, je savais que j'avais joué contre les petites catégories de l'Olympique, du Liberté, qui s'appelait Sili à l'époque, et j'étais au Sahel. Non, j'avais existé. Attention.
Donc, écoute,
vers vous, monsieur.
Écoute, laisse-moi finir.
S'il vous plaît.
Je n'aime pas qu'on me coupe, vraiment, ça me perturbe, quoi. Je n'aime pas ça.
Oui, oui.
Je t'ai pas coupé quand tu
vous
parlais.
Vous aurez tous le temps de développer vos idées.
Quand j'avais aujourd'hui les petites catégories, aujourd'hui encore, tous ces clubs ont. Moi, je pars aux entraînements. Le Sahel a encore des petites catégories, l'Olympique, sans oublier les centres de formation qui ont fait beaucoup de jeunes, des catégories des jeunes. C'est même une exigence de la FENIFOOT par rapport au, je parle sur le contrôle du SC, par rapport à la subvention. Si tu n'as pas les petites catégories, la subvention va diminuer. C'est par rapport à ça. Aujourd'hui, la plupart des clubs en ont. Même à l'intérieur du pays, moi j'ai couvert beaucoup de matchs à l'intérieur du pays. Il y a ces petites catégories. Donc la base est là. J'ai dit la base, elle est mal exploitée. Pourquoi? Parce qu'avant, le football se faisait dans les quartiers. Aujourd'hui, le football est à l'école. Toutes les nations que vous voyez là, c'est des bonnes volontés qui se lèvent, ils créent leur centre de formation, ils forment des joueurs avec l'aide bien sûr des expatriés et ils les vendent en Europe. Ces joueurs reviennent dans leur pays, forment des bonnes équipes nationales. Aujourd'hui, si vous voyez au Sénégal, le président de la Fédération sénégalaise de football n'a rien fait pour que le Sénégal ait une équipe nationale. Tous les joueurs qui sont en équipe nationale du Sénégal ont été formés par des centres de formation qui les ont envoyés en Europe. Et ces joueurs-là, quand ils reviennent, c'est normal que le Sénégal dame le pion sur beaucoup de nations. C'est comme ça, j'ai dit, pour qu'on revienne à la base, on va revenir à la base au Niger. Comment? Si on n'a pas de centre de formation de référence qui peut bien former les joueurs et les envoyer en Europe dans des clubs. En ce moment-là, personne ne va gagner le Niger.
Donc si je comprends bien, selon vous, cette progression, elle n'est pas suffisante?
Non, elle n'est pas suffisante. D'accord. Il faut vraiment... C'est pour cela que j'ai dit, la base est là. Tous les clubs ont des catégories de jeunes. On assiste toujours à des compétitions de jeunes. Mais ça ne suffit pas. La formation, elle n'est pas de qualité pour permettre au Niger d'asseoir une bonne équipe nationale. Voilà là où moi, ce que je voulais dire.
Monsieur Seydou, je vais revenir vers vous un peu plus tard. Monsieur Souleymane, qu'est-ce que vous avez à dire?
Je pense que Assimi a parfaitement touché le vrai problème. Vous savez, on se met d'un côté, on regarde et puis on dit, voilà, la FENIFOOT, faites votre travail. Ce n'est pas forcément mauvais. C'est son rôle. Elle a une délégation de pouvoir du ministère de l'État pour organiser et structurer le football. Mais en fait, le football est une affaire très, très, très sérieuse qui doit impliquer tout le monde, toutes les parties prenantes. Il ne s'agit pas seulement de la fédération. La fédération, elle crée le cadre, elle organise, etc. Mais chacun doit jouer sa partition. C'est comme une chaîne. Si à un moment donné, un moyen de la chaîne ne fait pas son travail, la machine va se gripper. La fédération a beau se démultiplier, a beau faire l'impossible, on aura des résultats qui seront toujours contestables et qui seront peut-être sans doute mauvais, en tout cas pas à la hauteur des attentes légitimes du peuple nigérien. Et l'exemple du Sénégal est très frappant. On peut également parler du Mali, on peut parler du Burkina Faso. Ne parlons pas de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Ce sont des privés qui s'investissent, qui créent des centres de formation, qui vont en Europe chercher des partenaires. En Amérique latine, aux États-Unis, au Canada, ils cherchent des partenaires en Asie. Ils mettent en place des centres de formation et chaque année, ils se débrouillent, permettez-moi l'expression, de faire partir au moins un jeune. Avec le départ, le contrat d'un seul jeune, vous pouvez entretenir votre centre pendant au moins 3 ans, 5 ans. Et cela vous donne une meilleure perspective dans la formation. Avec les dividendes que vous gagnez, vous pouvez réinvestir dans votre centre pour l'améliorer, pour l'agrandir, pour faire venir d'autres instructeurs, pour recruter, etc. Et la machine est huilée. Le football actuellement est un vrai, vrai, vrai business. Il n'y a qu'au Niger, malheureusement, que beaucoup ne l'ont pas compris. On s'arrête, on dit à ça, la Fédé de faire. Oui, d'accord. La Fédé peut faire sa part de travail. Mais il faut que tout le monde s'implique. Tout le monde. Tout celui qui s'assoit dans sa fada à avoir les meilleures idées, etc. Mais il faut passer à l'acte. De la même manière qu'actuellement vous cherchez un petit terrain pour créer une école, une école, une crèche, une garderie, une école primaire ou un lycée, un collège, mais vous pouvez faire la même chose pour créer un centre de formation. C'est aussi de la formation. C'est aussi de l'encadrement de jeunes que vous apportez. Donc, cela peut aider. Donc, les cadres sont là. Au niveau de la fédération, les textes sont là. Les textes réglementaires sont là. Au niveau du ministère, les textes réglementaires sont là. Donc, pourquoi les gens ne veulent pas se jeter à l'eau? Parce qu'ils veulent du tout cuit. Parce que la formation, elle est difficile. Il faut être patient. Mais quand vous vous investissez, sincèrement, vous allez tirer les bénéfices de la formation. Comme il l'a dit, je veux juste insister, effectivement, comme on l'a dit, par exemple, nous, au niveau de la fédération, nous avons obligé tous les clubs à avoir des catégories de jeunes. C'est une obligation. Vous êtes obligé d'avoir soit des cadets, des U15 et même des catégories féminines. C'est une obligation pour généraliser et vulgariser la pratique du football même au niveau des jeunes. Et des compétitions sont créées à l'endroit de ces jeunes-là. Mmh. Et c'est là-bas que la direction technique nationale et les entraîneurs puisent pour former des catégories des équipes nationales du Niger de moins de 17 ans, de moins de 20 ans et même très bientôt de moins de 15 ans. On va peut-être en reparler. Il y a même l'académie d'élite qui sera ouverte très bientôt où il y aura des moins de 15 ans et des moins de 17 ans. Il y aura des moins de 20 ans qui seront, eux, dans le régime externe. Donc vraiment, effectivement, je pense qu'en résumé, on fait un faux procès sans véritablement tenir, comprendre les tenants et les aboutissants.
D'accord. Monsieur Seydou, nous allons revenir vers vous après la pause. Avec vous maintenant, nous allons développer plus les difficultés que rencontre le football nigérien. On vous écoute.
Tout à l'heure, j'entendais M. Lesg disait que le véritable problème, les gens veulent seulement du gâteau. On ne respecte pas les règles et les règlements intérieurs de la FINIFOOT. Je suis entièrement d'accord, mais la réalité est là. Tout à l'heure, je disais que les gens sont libres de défendre leurs droits, mais il faut qu'il y ait un objectif bien déterminé. Par rapport à la difficulté de notre football, le championnat du Niger avant, un seul club peut vous jouer 28 matchs ou 32 matchs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'il n'y a pas une mise à jambe. Parce que le football, il y avait du sérieux. Avant, les sociétés mettaient des coupes uniquement pour la mise en jambe, pour leur publicité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que le football n'est pas en bonne marche. Pourquoi le football n'est pas en bonne marche, madame? On peut pas, aujourd'hui, c'est comme ton enfant. Tu ne peux pas l'inscrire directement à l'école pour en classe d'examen. Quelqu'un qui n'a pas été en classe de CI et qu'il vous amène un bon résultat de classe de CM2. C'est comme ça. Aujourd'hui, même les joueurs que nous voyons dans les différents clubs, les gens veulent qu'ils amènent un bon rendement. Ce n'est pas le cas tant que nous ne sommes pas encore revenus sur la base. C'est-à-dire que les pépinières, les cadets, les juniors. Et en dehors de ça, il y a la politique de l'État. Il faut qu'il y ait au moins, madame, le championnat scolaire, intercommunal, le championnat interquartier.
Oui, ça, ce sont les perspectives. Voilà. Nous allons en revenir plus tard.
Mais,
madame, oui, allez-y.
Mais maintenant, aujourd'hui, madame, si nous voulons que le football nigérien marche, il faut la bonne volonté de tout un chacun.
Mariam Weba, quelles sont, selon vous, les difficultés qui favorisent cette baisse de performance? Tout à l'heure, vous aviez envie de répondre quand M. Hassoumi intervenait.
Oui, comme il l'a dit, c'est vrai, c'est l'utilisation de la base, l'utilisation de ces jeunes qu'on ne fait pas comme ils le font. C'est vrai, il a raison.
Votre œil de supportrice, là, voilà. Vous dit quoi?
Revenir à la base, il faut les faire jouer, faire des compétitions. Je dirais que la fédération a fait mieux et nous demandons qu'ils fassent encore mieux que ça. Parce que il y a la formation de jeunes entraîneurs, on les forme, les jeunes sont là. Et c'est maintenant que la politique aussi, que chaque club ait des enfants, des pépinières, c'est maintenant qu'on a commencé. Et je leur félicite d'imposer ça. Parce que sans ça, ça ne va pas marcher. On a du talent, vraiment on a du talent. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas comment les exploiter, comment faire, comment inciter ces jeunes à se former et à le faire comme eux-mêmes ils le veulent. Si on travaille la main dans la main, aider cette fédération, parce qu'on ne les aide pas, on les regarde seulement faire. Quand il y a quelque chose, on monte, on commence à les insulter.
D'accord.
Il leur faut un peu de courage.
D'accord.
Si on va les aider, nous allons travailler la main dans la main, peut-être ça va aller. Et puis, le Nigérien aussi, il faut que nous changeons nos mentalités. Quand une personne est devant toi, si tu ne peux pas l'aider, laisse-le faire ce qu'il a commencé, ce qu'il peut. S'il ne peut pas là, il ne va pas le commencer. Et si on l'aide aussi, il peut avancer plus que ça. C'est ce que nous ne faisons pas ici.
Malgré le classement de la FIFA qui a démontré une progression du Niger, le mois d'octobre aura été cruel pour le football nigérien. 8 et 11, si vous vous rappelez, en octobre 2021, à Alger et à Niamey. Le MENA national a connu donc des moments difficiles. Écoutons l'avis d'un entraîneur sur ces défaites.
J'ai 35 ans de métier d'entraîneur. J'ai 12 ans de métier de footballeur professionnel. Je peux vous garantir que ce n'est pas facile de jouer contre des joueurs de très très haut niveau. Mais si vous naviguez à vue en voulant faire jouer des joueurs qui vous plaisent, qui sont des amis de la famille ou je ne sais quoi, pour faire une équipe, mettre des joueurs tout le temps qui sont âgés parce qu'ils sont là, ils sont des références, vous ne construirez jamais un avenir pour le MENA. Moi je pense qu'il y a une pépinière qui est assez jeune, qui arrive. Ce sont les 20 ans qu'on fait la Coupe du Monde. Les 17 ans, voilà, ça c'est avec ça que vous allez construire l'avenir. Parce que s'ils se sont qualifiés en Coupe du Monde par le passé, dans leur catégorie, ce n'est pas le fait du hasard. Ensuite, il faut respecter l'Algérie. Vous avez vu un petit peu ? C'est ça le haut niveau. Nous, pendant 10 minutes, quand on a démarré le match, on a eu deux occasions. On ne peut pas se permettre de donner des situations à un tel adversaire. La moindre situation qu'il exploite, elle est efficace. Donc après, c'est compliqué de courir derrière deux buts de cette manière. À partir de là, les garçons ont essayé.
Monsieur Silliman, que pensez-vous de ces dires ?
Moi, je crois que c'est le sélectionneur national, M. Jean-Michel Cavalli, qui a donné sa lecture de la double confrontation contre l'Algérie. Bon, ça a été deux matchs extrêmement compliqués, comme vous l'avez dit. Tout le monde a vécu ces deux matchs contre l'Algérie vraiment de façon amère, parce qu'on a connu quand même deux sévères défaites. Et légitimement, c'est tout à fait normal. Les Nigériens s'attendaient à ce que le MENA crée l'exploit, comme on a l'habitude de le faire de temps en temps. Mais malheureusement, la marche était très haute. Le défi n'a pu être élevé. Il y a eu des défaillances qui ont fait qu'on a donné nous-mêmes les bâtons pour nous faire battre. Je pense que l'Algérie n'avait pas besoin de ça. C'est une équipe assez valeureuse pour ne pas compter sur l'adversaire, pour ne pas compter forcément sur les erreurs individuelles. Donc, je rappelle que c'est quand même les champions d'Afrique en titre. Ils sont sur une série impressionnante de quasiment 33-34 matchs sans défaite. Et ils ont joué contre des pays africains, européens, sud-américains. C'est une armada. C'est vraiment un autre niveau où nos joueurs ne sont pas encore arrivés. Donc la différence, elle est nette. Mais n'empêche, nous comprenons parfaitement, la défaite a été amèrement ressentie. C'est tout à fait normal parce que nous avons quand même de la fierté, nous avons de la dignité et nous ne voudrons pas voir des scores aussi fleuves contre notre équipe. Mais moi, je peux vous dire qu'après ces deux matchs, nous avons convoqué le staff, nous avons convoqué le sélectionneur. Il est venu, il s'est expliqué. On a fait un montage vidéo où on a vu ce qui s'est passé sur le terrain. Je vous dis que les différences étaient criantes. Il y avait un manque de discipline tactique. Il n'y avait pas de l'engagement, il n'y avait pas de l'envie, il n'y avait pas de la détermination. On avait commencé, mais après, dans la durée, ça a lâché. Et ça ne pardonne pas contre des équipes comme l'Algérie.
D'accord. Monsieur Hassoumi, que pensez-vous du témoignage qu'on vient d'écouter ?
Sur ce qu'il a dit, je suis en partie d'accord et de l'autre partie, je ne suis pas d'accord. Parce que je suivais le travail de Jean-Michel Cavalli depuis qu'il était là. Il a commencé par 3 victoires. Peut-être déjà les gens pensaient que le MENA a un nouveau sélectionneur. 3 victoires déjà. On pensait que déjà le MENA est assez bon pour gagner l'Algérie ou le Burkina Faso. Or, comme il a dit, là c'est là où je suis en partie d'accord avec lui, l'Algérie et le Niger, ce n'est pas le même niveau. Les footballeurs qui composent l'équipe nationale d'Algérie jouent à un niveau élevé par rapport au nôtre. Ensuite, l'Algérie aujourd'hui ne peut pas battre des équipes avec lesquels ils sont dans le même chapeau. Aujourd'hui, ils sont qualifiés au match de barrage. Mais l'Algérie n'est pas sûre d'aller au Mondial parce qu'il va jouer contre des équipes où ils ont à peu près le même niveau. Donc le Niger n'a pas ce niveau. Aujourd'hui, le Niger est dans le 3e chapeau. Heureusement, ça commence à aller parce qu'avant, on était dans le 4e chapeau. Donc, mais là où moi, je n'étais pas d'accord avec lui, on pouvait limiter la casse, notamment en faisant des bons choix. Heureusement, et comme le SG l'a dit, ils ont revu la situation, ils ont corrigé et ça a permis d'avoir le match nul contre le Burkina Faso. Et ça a permis aussi cette victoire écrasante face au Djibouti. Donc, on peut mieux faire. Et là où il n'a pas été, pour moi, prévoyant, c'est qu'il n'avait pas fait confiance aux jeunes. Et la seule fois où il a fait confiance aux jeunes, on a vu un meilleur MENA. Il pouvait naturellement mettre les jeunes, même si on était écrasé par l'Algérie, les gens ne vont pas voir ça d'une manière négative. Mais parce qu'il a continué à ce moment à faire confiance à des vieux briscards que la mayonnaise n'avait pas pris. Aujourd'hui, c'est la jeunesse, vous l'avez entendu, Il veut reconstruire avec la jeunesse. Et il avait commencé de bonne manière. L'équipe nationale qui avait joué contre le Burkina Faso, cette équipe, moi je suis sûr, si on l'améliore un peu, facilement le Niger va se qualifier à la CAN 2023.
D'accord. On ne peut pas parler de football au Niger sans relater les championnats scolaires, intercommunaux et régionaux. Monsieur Seydou, quel est leur rôle dans le football nigérien? Est-ce qu'ils peuvent permettre au football nigérien de progresser?
Vous savez, madame, en réalité, même avant que le football marchait, les gens voyaient des talents. C'était dans des écoles-là. Vous n'avez même pas besoin de venir dans un club pour chercher un joueur en équipe nationale. Même dans les quartiers, on le faisait. Mais maintenant, je veux encore revenir sur les propos de l'entraîneur de l'équipe nationale. Il disait que les gens amènent des joueurs de Fada ou bien du quartier parents, amis et connaissances. Mais s'il savait réellement que c'est ça, pourquoi il n'a pas pu décrire ça avant le match? Mais après avoir pris une défaite, qu'il va le dire. Ça, je ne suis pas d'accord. Et encore, l'histoire lui a donné raison, peut-être, il faut que je m'y mette la nuance. Et le SG disait que les joueurs ne sont pas disciplinés. Ça va de soi. Parce qu'une équipe nationale qui n'a pas de psychologue, et que, normal, avant même le match, les gens savaient que, ils disaient que l'Algérie va leur gagner. Parce qu'il n'y a pas la psychologie humaine. Il n'y a pas une manière d'approche. Une équipe nationale qui n'a pas de psychologue, même demain, madame, oui. S'il vous plaît.
En fait, nous sommes presque au terme de l'heure, okay. Voilà.
Non,
donc,
c'était juste un complément d'information, oui. Par rapport à ça. Il lançait quelque chose par rapport à ça. Mais,
en fait, le temps nous est insuffisant, okay. Franchement. Certes, il y a beaucoup de choses à dire,
non,
mais...
Non.
Je voudrais juste qu'on
le dise. Je veux juste recadrer.
Voilà.
Non. Recadrer, oui. Une chose, madame, s'il vous plaît.
Oui, si,
j'ai dit que les joueurs n'étaient pas disciplinés. J'ai parlé de discipline tactique. C'est-à-dire sur le terrain, qui joue où, qui joue où, et contre, voilà, dans telle phase offensive, etc. Donc je parlais de discipline tactique. Et puis deuxièmement, effectivement, comme l'a dit Hassim, les propos du sélectionneur ont été complètement sortis de leur contexte. Je suis surpris que ce débat revienne. Je crois que tout le monde actuellement est édifié. Ça avait été fait à dessein pour intoxiquer une certaine opinion, parce que c'était de bon ton, le MENA a perdu, tout le monde était dessus. Alors on intoxique, on manipule, on fait sortir une petite phrase de l'interview.
On signale que nous sommes vraiment à terme, si on
voilà.
Peut aller,
donc,
les perspectives, les solutions, qu'est-ce que la FENIFOOT ou l'État peut faire peut-être pour mettre sur pied le football nigérien?
Bon, moi je crois que déjà, on ne peut pas jeter, comme on dit, le bébé et l'eau du bain. On ne peut pas dire que tout est négatif, tout est mauvais, loin s'en faut. Il y a beaucoup de sillons qui sont tracés. Il y a des points très positifs sur lesquels nous pouvons rebondir.
En bref.
Mais évidemment, on en est conscient. Nous ne sommes plus qualifiés à la CAN depuis 2013. Ça commence à faire longtemps. Et c'est vrai que la fédération était venue, elle avait mis l'eau à la bouche. On était au Gabon, en Guinée équatoriale en 2012, en Afrique du Sud en 2013. Les gens pensaient que ah, voilà, c'est fini, c'est lancé. Mais il faut maintenir les performances. Mais pour maintenir les performances, il faut continuer et multiplier les efforts. C'est très, très, très compliqué de se qualifier à la CAN. Vous avez vu les gros bras, les nations qui sont là. Mais il faut maintenir les performances. Et maintenir les performances, c'est à tous les niveaux. Tout à l'heure, j'avais dit que tout le monde joue sa partition. Que chacun joue son rôle. Que ce soit les supporters, que ce soit les journalistes, que ce soit les clubs, les associations régionales, la fédération, bien sûr. Mais l'État également, que tout le monde soit joueur et on verra qu'il y aura des résultats. Je pense qu'actuellement, franchement, nous sommes confiants. Nous sommes confiants et nous avons eu un acte fort le 26 juin passé, quand le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, a assisté à la finale de la Coupe nationale. Vous savez, depuis quand un chef d'État n'est pas parti au stade pour une finale de Coupe nationale? Depuis 1999. Vous vous rendez compte? Ça ne nous rajeunit pas. Ça fait plus de 20 ans. Et ça, ça a été un acte fort. Et le jour-là, tout le monde... Tous les amoureux du foot ont dit que peut-être que ça va commencer à changer. Parce que ce n'était pas anodin, c'était symbolique. Et après, je vous le dis, ça tout le monde le sait aussi, il avait approché la fédération, il a convoqué la fédération pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche mieux. Un homme très pragmatique, très concret, très direct, il a posé la question simple. Et on lui a répondu. on a fait des propositions et très bientôt encore, on va se retrouver. Et je pense qu'il y a des pistes qui, déjà qui sont échafaudées.
Lesquelles?
Par exemple, renforcement des clubs.
D'accord.
Parce que pour que le championnat soit d'un bon niveau, il faut que le club soit de bon niveau également. Renforcer le club en leur allouant des budgets conséquents. C'est là-bas qu'on travaille tous les jours, parce qu'on l'oublie aussi. L'équipe nationale, elle est convoquée de temps en temps, peut-être une fois par mois quand il y a une compétition. Mais le travail journalier, quotidien, il est fait dans les clubs. C'est chaque après-midi, entre 15h, 16h, jusqu'à 18h, 19h, ou parfois le matin. Mais c'est là-bas que le vrai travail doit se faire. Et c'est là-bas que la fédération, à travers sa DTN, à travers ses entraîneurs, cherche les meilleurs pour alimenter les équipes nationales. Mais si au niveau des clubs, le travail n'est pas efficient, comment voulez-vous avoir une équipe nationale efficiente? C'est aussi simple que ça. Donc, renforcer les clubs, renforcer la base, avec l'ouverture des académies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y aura une académie de moins de 15 ans, de moins de 17 ans et de moins de 20 ans.
D'accord.
Le président de la République, chef de l'État, a accepté, a apporté sa contribution pour aider la fédération à mettre en place cette académie, c'est-à-dire des meilleurs jeunes nigériens, partout où ils sont. Comme dit la chanson de Bilma
oui.
Partout il y aura un maillage du territoire national qui sera fait, les meilleurs jeunes de moins de 15 ans, on va prendre une élite, une trentaine, les meilleurs jeunes de moins de 17 ans, une trentaine, et les moins de 20 ans également, qui eux, je le précise, seront en externat. Donc voilà les pistes de solution. Et autre chose quand même, comme on dit toujours, les nerfs de la guerre, c'est le sponsoring, le soutien financier. Sans argent, vous ne pouvez rien faire.
D'accord.
Il faut beaucoup de moyens. Et là aussi, il y a des pistes. Le président de la République est déjà assez avancé là-dessus avec le soutien de la fédération. Nous pensons que, en tout cas, nous sommes dans une phase transitoire. Et la saison prochaine, je crois qu'il y aura beaucoup de grains à moudre et de perspectives vraiment intéressantes pour le football nigérien. Mais ce n'est pas fini. Il y a aussi les infrastructures. Si vous n'avez pas des conditions acceptables, des terrains de jeu qui sont efficients, comment vous pouvez former les jeunes? Donc c'est un tout.
Pour
renforcer
le football.
Voilà.
Ce qu'il disait, pour renforcer le football, il ne suffit pas seulement encore de créer des clubs AS ou bien des sociétés. Il y a d'autres clubs qui sont là, à Niamey et à l'intérieur du pays. Au moins, avant de les créer, les clubs, il faut les sponsoriser.
D'accord.
Mais madame, vous savez, en réalité, il ne suffit pas seulement de créer des sociétés. C'est-à-dire que madame, s'il vous plaît.
Non,
s'il vous plaît, une minute, madame, s'il vous plaît, madame.
Permettez-moi de conclure.
Madame, au lieu de créer les AS là, les sociétés, au moins les AS là, il faut sponsoriser les différents clubs.
C'est à travers ça,
au moins, on peut renforcer le football.
J'ai bien compris, Monsieur Seydou. Donc, nous sommes au terme de ce forum. Merci, chers invités, d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et nous étions avec Monsieur Silimane Mohamed, secrétaire général de la Fédération nationale de football, avec Monsieur Hassoumi Abdoulaye, journaliste sportif à la télévision nationale, promoteur du site Sport Prolongation, avec Madame Mariama Gouba, membre de l'Association nationale des supporters, et enfin avec Monsieur Seydou Ousseini, un passionné de football. Je vous remercie, chers invités. C'était Rafika Taher à la présentation. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre thème du studio Kalangou. Excellente soirée à vous.